Bonjour à tous. La désinformation s'impose aujourd'hui comme l'un des grands défis de nos sociétés connectées. Rumeurs, intox, manipulation d'images ou de vidéos circulent à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux et ainsi que sur les plateformes numériques. Face à ce flot continu, le fact-checking, cette pratique de vérification des infos, apparaît donc comme un rempart indispensable. Mais que peut-il réellement ? Peut-il suivre le rythme effréné de la véracité? Quels formats sont les plus efficaces pour toucher le public? Quelles stratégies adopter pour contrer les fausses nouvelles sans pour autant tomber dans la surenchère? Autant de questions au cœur de ce débat coproduit par Studio Tamani du Mali, Studio Kalangou du Niger, Studio Yafa du Burkina Faso et Studio Hirondelle Tchad, qui nous reçoit d'ailleurs dans ses locaux. Je suis Alice Ouidraogo du Studio Yafa et je suis très heureuse de vous accueillir, chers invités. Ousmane Mahmoudou, vous êtes rédacteur en chef adjoint chargé du numérique du Studio Kalangou au Niger. Nous avons aussi Jean Bosco Manga, juriste, journaliste et écrivain tchadien. Frédéric Doumbé, directeur de l'information du groupe Tchad Info. Et enfin, Saïba Goussman, lui, il est chroniqueur et acteur de la société civile ici au Tchad. Alors, le décor étant ainsi planté, bienvenue à tous.
Merci.
Alors, pour permettre aux auditeurs d'avoir des clés de lecture, est-ce que, Frédéric, vous pouvez nous donner la définition du mot fact-checking déjà?
Okay. Merci. Donc, fact-checking, c'est un anglicisme donc, qui voudrait simplement dire fact comme fait et puis checking comme vérification. Donc, en un mot, ce sera la vérification des faits.
Merci. Alors, vérifier les faits, les infos. Oui. Vous voulez dire. Alors, Ousmane, le fact-checking est posé comme un antidote à la désinformation. Pour poser un diagnostic général, régional du moins, quelles sont les différentes tendances de désinformation qu'on rencontre aujourd'hui au Sahel?
Alors, je rebondis d'abord un peu sur la définition du fact-checking pour compléter mon ami. Alors, le mot est vraiment venu parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, Internet, et les journalistes ont commencé à faire face à un flot d'infos, à une cadence, à un nombre croissant, très grand d'informations. Donc, il fallait mettre en place un outil qui puisse permettre aux journalistes de répondre rapidement à ça. Une rédaction chez nous, malheureusement, on est très limité en capacité humaine. Les radios ou les médias n'ont pas forcément beaucoup de moyens aujourd'hui. Donc, le fact-checking vient un peu compléter ça. Et donc, au Sahel, aujourd'hui, ce qu'on voit, le Niger, le Mali, le Tchad, on a plusieurs typologies de désinfos qui circulent. Beaucoup sont produites de plus en plus dans les langues locales, ce qu'on voit, parce qu'on est quand même dans des zones où il y a beaucoup d'analphabètes. On voit beaucoup de désinfos autour des questions sécuritaires, autour de des questions de santé, autour des questions aussi des humanitaires. D'ailleurs, je me rappelle, c'était en 2023, je pense qu'il y a eu une enquête de Forbidden Story qui a été publiée. Et dans laquelle donc il y avait une société israélienne qui s'appelle Percepto, si je ne me trompe pas, qui ont conduit des campagnes de désinformation contre plusieurs humanitaires, dont le CICR, si ma mémoire est bonne. Et donc tout ça, en fait, ça contribue aujourd'hui à alimenter, si vous voulez, un narratif de délation, un narratif politique aussi, parce qu'on voit que la zone se déstabilise de plus en plus, les citoyens ne savent plus quel acteur finalement se fier, si ce n'est aux acteurs nationaux, les télévisions nationales, les grands médias qui sont déjà là présents. Donc, il y a toute cette profusion aujourd'hui qui fait que les gens ne se retrouvent pas forcément, d'où l'intérêt des journalistes de continuer à faire leur travail de vérification, de fact-checking.
Alors, quelle est la tendance au niveau régional, surtout au Sahel?
Alors, au Sahel, ce que je disais tout à l'heure, donc on voit beaucoup de désinfos autour des questions sécuritaires parce que aujourd'hui la sécurité, vraiment, c'est, on va dire, le principal sujet qui concerne les populations qui vivent dans ces zones-là. Alors, le souci, c'est que si aujourd'hui, on est quand même face à des gouvernements où il n'y a pas malheureusement beaucoup de communication. Les gens, on sent qu'il y a eu une attaque quelque part, on a besoin de la vérifier, mais la chaîne de vérification, de validation reste assez complexe parce qu'il faut que les armées communiquent d'abord. les médias, si vous communiquez avant les sources officielles, eh bien, l'expérience a montré en général on risque d'avoir des problèmes et la population aussi se referme sur elle-même, puisque elle-même, elle s'applique une forme d'autocensure qui fait que les gens ont peur de parler, même s'ils ont constaté des choses sur les réseaux sociaux, etc. Et ça fait que, mais malheureusement, il y a des gens qui ont compris ça et qui l'exploitent, qui produisent beaucoup de désinfos, malheureusement. Je le disais tantôt, sous forme de désinfos autour des questions sécuritaires, mais aussi souvent de capsules ou de capsules audio qui circulent dans les groupes WhatsApp. Vous aurez aussi, très souvent, on voit aussi les faux communiqués qui circule beaucoup. Même récemment, je pense qu'on en a eu un au Niger, un autre au Mali, autour des questions de... Donc, il y a tout ça et les gens sont vraiment confus. On ne sait pas d'où cette info vient. On ne sait pas quel type de conséquences elle peut avoir. Et en face, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de réponse. Puisqu'on le voit, la désinfo, ça circule à une vitesse tellement rapide qu'on peine à mesurer réellement son impact. Et aujourd'hui, les médias ont un vrai problème, c'est d'abord de collecter, de faire de la veille, ce qui est aujourd'hui encore très difficile, puisque les outils classiques qu'on utilisait pour faire la veille se basaient sur des sources publiques, c'était avant Google. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu as beaucoup de désinfos dans WhatsApp, dans lequel tu ne peux pas aller voir ce qui se passe.
Alors, Jean Bosco, y a-t-il des plateformes privilégiées sur lesquelles la désinformation circule le plus? Je signale que vous êtes écrivain, journaliste et juriste ici au Tchad.
Oui, nous avons des rumeurs et des intox qui le plus souvent sont utilisés pour des propagandes qui vont très vite dans un pays où la grande part de la population s'informe via WhatsApp, via Facebook. Souvent, les rumeurs peuvent provoquer des violences, provoquer des émeutes. Il y a aussi la crise même de confiance qui est généralisée envers les institutions, envers les médias et même les acteurs politiques. Donc ça fait que c'est difficile aujourd'hui de faire confiance à certaines sources d'informations. Et il y a aussi les fausses informations qui sont diffusées par les élites et par ce qu'on appelle les influenceurs. Donc souvent, la polarisation politique et aussi l'ethnicisation du discours fait que cela favorise la diffusion des informations qui sont souvent biaisées. Donc, je crois que ce...
Les plateformes sont multiples.
Sont multiples.
D'accord. Saïba Goussmon, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile. Alors dites-nous, les fausses informations circulent rapidement, comme on le dit souvent, c'est ça qui circule le plus vite. Alors comment est-ce que ces informations arrivent à impacter dans nos sociétés aujourd'hui?
Il faut dire qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels les gens jouent préalablement avant de diffuser les informations. Ces leviers, ça peut être la peur déjà, et la peur c'est quand même un sentiment qui est une émotion qui peut être déstabilisante. Et les gens, avant de véhiculer des fausses informations, travaillent sur ces questions-là. Parce que généralement, ceux qui sont à l'origine des fausses informations savent que ce sont des fausses informations.
Ils savent déjà que c'est des fausses informations.
Ceux qui les diffusent, bien sûr. Ils savent que ce sont des fausses informations, mais maintenant, ceux qui les reçoivent, il faut mettre ces leviers-là en place pour que cela ait un impact maximum. Et donc, cet impact-là, on va jouer sur la peur, on va jouer sur des émotions un peu, par exemple, à manipuler des histoires de santé, par exemple. Aujourd'hui, vous allez voir que dans les groupes WhatsApp, on ne parle que de ça, des remèdes miracles, à boire des décoctions de racines de ci, de ça, pour pouvoir guérir des maladies. Et bien, effectivement, quand vous êtes face à une personne qui est malade, qui est souffrante et qui a besoin de solutions,
voilà,
qui est vulnérable, effectivement, ben, vous touchez cette personne-là plus rapidement. Et ce n'est pas une histoire de « on a étudié hein, », parce que généralement, les gens qui tombent dans le panneau, quand vous allez voir leur background, c'est des docteurs, limite des médecins, ouais, qui vont quand même aller s'adonner à ces pratiques, parce que ces personnes sont acculées, parce que ces personnes n'ont pas d'autre choix, ou bien parce qu'elles n'ont plus de solution. Et donc, quitte à se lancer dans une aventure liée à une information qui est complètement fausse, même quand on le sait, on est des humains, on a les émotions et tout ça, on se dit bah, pourquoi
on se laisse
pas
emporter.
On tente quand même.
D'accord. Alors, Frédéric, on tente. Il dit que les diffuseurs, généralement, ils savent, ils sont au courant que ce sont de fausses informations, mais celui qui reçoit, lui, ne sait pas. Alors, quelle attitude adopter lorsque nous avons une information parfois qui porte à confusion? Quelle est l'attitude à adopter?
Alors, je pense que pour compléter un peu ce que mon prédécesseur a dit sur les leviers, je dirais aussi à côté des leviers, il y a aussi ce que Jean Bosco disait, cette crise de confiance, mais aussi la nature à horreur du vide. Par exemple, les personnes légitimes à apporter des clarifications ou bien de la bonne information sur un sujet donné, lorsque ces personnes-là restent en retrait, ça laisse place justement à l'imposture. Donc maintenant, par rapport à la question de savoir quelle attitude, je pense que fondamentalement, tout être humain est doté un peu d'une portion de ce qu'on appelle le doute raisonnable ou bien qui peut aussi se désigner comme étant l'esprit critique. Donc, face à une information, le bon réflexe serait justement de chercher à vérifier. Même si aujourd'hui, ce n'est pas évident avec l'IA générative ou en gros, les contenus non authentiques aussi sont difficilement décelables. Donc, déjà, c'est d'adopter l'esprit critique face à une information. C'est de chercher à vérifier au minima avant de consommer ou bien de partager.
Merci. Alors, il dit qu'il faut avoir un esprit critique. Est-ce que chercher à vérifier? Ousmane, je vois que vous voulez ajouter quelque chose.
Oui, alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'il a dit. En fait, dès que nous, le conseil qu'on donne très souvent quand on est avec des gens, c'est de leur dire, dès que vous sentez que vous avez envie de partager une info en général, il ne faut pas le faire. Il faut prendre 2 secondes, réfléchir, interroger les bonnes personnes. Et c'est comme si, ce qu'il disait, quoi. Aujourd'hui, on est face à un problème, c'est que les experts, souvent, qui doivent expliquer, ne parlent pas dans les médias. Et donc, ça fait que des gens qui ont compris, parce qu'il faut le rappeler qu'aussi, que la désinformation, aujourd'hui, on parle de l'économie de la désinformation, ça produit beaucoup de milliards à l'échelle de la planète. Des gens, beaucoup de gens gagnent leur vie avec en créant de fausses informations, finalement. Et l'autre chose, c'est qu'on parlait de viralité, pourquoi les gens touchent. Je pense qu'il y a aussi un problème au niveau des plateformes, que ce soit Facebook, que ça fasse TikTok, qui encourage finalement ce type de contenu. Et ça, je pense qu'il y a eu plusieurs études qui l'ont démontré. Facebook, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, Facebook récompense beaucoup plus la viralité. Facebook ne récompense pas l'exactitude d'une information. Quelqu'un qui fait une information de très, comment on dit, très radicale, très clivante, aura plus de chances de voir sa publication likée, partagée par des milliers de personnes, etc. Uh-huh. Que si c'est un média qui s'est assis ou un blogueur, ou en tout cas qui a produit une vraie information. Le factuel, aujourd'hui, ça n'intéresse pas ces plateformes.
Uh-huh. Il faut donc éviter de partager.
Oui.
En plus de la vérification. C'est ça. Jean Bosco, le fact-checking peut-il stopper la propagation des fausses informations? Par exemple, au Tchad ici, est-ce qu'on peut dire que le fact-checking, c'est un rempart?
Oui, c'est un rempart parce que pour la crise de confiance, par exemple, qui est généralisée, le fact-checking permet de redonner aux citoyens des repères fiables, surtout lors des périodes sensibles comme les élections, les conflits intercommunautaires, des tensions politiques ou bien des rumeurs sécuritaires, etc. Et pour les rumeurs et les intox qui se propagent très vite à travers WhatsApp ou bien Facebook, le fact-checking agit comme un outil d'endiguement pour limiter les dégâts même après la propagation. Et en ce qui concerne les fausses informations qui sont diffusées soit par les élites ou bien les influenceurs, comme je disais, le fact-checking permet de demander des comptes, de rétablir les faits et aussi d'inciter les acteurs publics à plus de responsabilités, à utiliser les canaux qui sont autorisés pour mieux communiquer afin de mettre fin à des fausses informations qui sont qui sont diffusées par certains.
Pourquoi pas rectifier, corriger?
Oui, rectifier, corriger et intervenir très rapidement.
D'accord. Merci. Saïba, comment est-ce que le grand public perçoit le fact-checking? Est-ce que le fact-checking, comme il dit, ça permet de corriger, de revenir sur ce qu'on a dit, ça permet d'interpeller? Est-ce que c'est perçu comme une pratique élitiste ou une pratique commune à tout le monde?
Élitiste, elle l'est parce que généralement, quand on reçoit une information, il y a le bouche à oreille qu'on néglige souvent et qui est généralement, je pense, beaucoup plus même pire que les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que c'est sorti des réseaux sociaux, que c'est tombé dans l'oreille de monsieur tout le monde, alors là, ça va être des discussions dans des débits de cabaret, dans des débits de boissons, dans les villages. C'est-à-dire que vous êtes ici à N'Djamena, il paraît que quelque chose s'est déroulé ici à N'Djamena, c'est du village qu'on va vous appeler pour vous informer. Est-ce que tu es au courant de ce qui s'est passé à N'Djamena? Vous voyez, c'est-à-dire que ça prend une dimension.
Ça va plus vite.
Mais oui, ça va plus vite. Mais le problème maintenant, c'est que une fois que l'information elle est partie, l'après-coup, c'est-à-dire quand les médias s'y mettent, quand les fact-checkers s'y mettent, généralement, on n'a plus le même engouement. On perd l'engouement autour de tous les éléments qu'on va apporter pour corriger la situation initiale qui a déclenché cette fausse information-là. Donc pour moi, je pense qu'il y a un gros problème d'éducation à faire et c'est vraiment une éducation au niveau des écoles, au niveau des lycées et tout ça. Tout à l'heure, Frédéric parlait de l'esprit critique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte africain. Quand l'aîné parle, le plus jeune, il écoute et il suit. Ça, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Je dirais, on l'a limite, mais ancré dans l'ADN. Vous voyez, et ça en termes de propagation de fausses informations, il faut prendre ce levier-là en compte. Vous voyez, donc aujourd'hui, je vais me retrouver face à un oncle, face à un papa. Ce qu'il va me dire, malgré que j'ai les outils nécessaires pour comprendre une fausse information et les déjouer, je vais quand même lui accorder ce bénéfice de doute-là et l'écouter. Et là, je suis éduqué à lutter contre les fausses informations. Il faut imaginer la personne qui n'est pas éduquée à lutter contre les fausses informations. Donc, esprit critique, oui. Mais esprit critique, dans le contexte africain, il faut d'abord partir sur la base d'une éducation. Et cette éducation-là, elle doit concerner tout le monde.
Oh, d'accord. Ousmane, est-ce que, en tant que fact-checker de profession, est-ce que le fact-checking, c'est une pratique élitiste pour le commun des mortels?
Ou bien moi, je pense que ce n'est pas du tout quelque chose de très compliqué. D'ailleurs, quand on regarde... les outils que les fact-checkers utilisent, c'est des outils qui ont été développés par des passionnés à la base. Au tout début, c'était des geeks et ce n'était pas du tout au début des outils même qui étaient destinés aux journalistes pour faire de la vérification. C'est des outils récupérés justement pour permettre aux journalistes d'aller plus vite. Donc, il y a plein de blogueurs aujourd'hui qui sont devenus des très bons fact-checkers, qui n'ont pas forcément étudié le journalisme, encore une fois. Toute la méthode, toute la technique, elle est gratuite. Les outils qu'on utilise, c'est des outils gratuits. Le plus souvent, l'info qu'on vérifie, c'est une info publique. Et il y a aussi un aspect du fact-checking, c'est qu'il a une vocation pédagogique. Quand je fais du fact-checking, la personne qui le lit ou qui m'écoute ou qui le regarde à la télé ou sur les réseaux sociaux, cette personne-là doit être à mesure de répliquer cet exercice et de tomber sur les mêmes résultats que moi. Donc, dans le fact-checking, il y a une partie tutorielle que l'on fait et dans laquelle on partage tous les outils qu'on utilise pour pouvoir faire cet exercice. Alors, peut-être le mot élitiste peut revenir quand on va commencer à enseigner le fact-checking, peut-être à une population qui n'a pas été à l'école. Ça devient un exercice difficile, mais d'expérience... On l'a testé, ça peut être compliqué, mais une fois que les bases sont posées, le plus dur, je pense que c'est de traduire les documents. Comment tu arrives à expliquer, c'est quoi une recherche d'image inversée dans une langue locale?
Mais est-ce que le matériel aussi ne pose pas problème?
Le matériel, une fois que tu as un téléphone portable aujourd'hui, c'est largement suffisant. Il y a tous les outils dessus. Tous les outils, il n'y a même pas besoin d'un ordinateur surpuissant. Enfin, ce n'est pas comme on voit à la télé où tu vois le gars devant un PC qui manipule des chiffres, non. C'est vraiment, tu, avec ton petit téléphone, quelqu'un qui a déjà accès à un smartphone, de base, il peut déjà faire du fact-checking.
Alors, donc ça veut dire que c'est un outil qui est accessible vraiment à tout portée, le monde.
Oui.
Même avec un téléphone, ça se fait.
Oui. Non, mais après, le fait que l'outil soit accessible et que les gens le comprennent et l'utilisent, c'est deux choses différentes. Parce que tout le monde a un gros téléphone dans sa poche et à chaque fois quand vous faites des ateliers de fact-checking, ah bon, non, c'est comme ça que ça se passe. Et la personne qui vous dit ça est un journaliste, est un blogueur. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que les outils sont là, c'est vrai, mais il faudrait arriver à les démocratiser suffisamment pour que tout le monde puisse avoir ce réflexe-là de se dire, ah tiens.
Savoir l'utiliser.
Voilà, de savoir l'utiliser. Donc pour moi, on a tous les outils, d'accord, mais on n'est pas suffisamment éduqué à bien les utiliser, justement.
Alors, Frédéric, quels sont les principaux défis rencontrés par les rédactions dans la vérification des faits à l'aide des réseaux sociaux actuellement?
Ok. Avant de répondre à la question, j'aimerais peut-être compléter mes deux prédécesseurs et puis rappeler aussi que le numérique, c'est vrai, mais il y a aussi cette dimension offline-là qu'il ne faut pas ignorer dans nos contextes du Sahel. Après, comme Saïba le disait, en réalité, lorsque la fausse information est répandue, il faudrait, quand on veut faire du nettoyage, repartir dans les mêmes canaux où la désinformation a été constatée. Et ces canaux-là, malheureusement, c'est pas une unicité de codage. Le langage varie d'un canal à un autre. Le péché qu'on commet souvent, c'est de rester sur le numérique et parfois utiliser plus ou moins le même style pour présenter que, voilà, par exemple, si c'est des recherches d'images inversées, on dit « ok, cette image a été sortie hors contexte ». Alors que la personne qui a eu accès à l'information en ligne, qui l'a repris à travers un mémo vocal et qui a partagé dans un groupe, rajoute également voilà. Donc, moi, je pense qu'en faisant ça, il faudrait aussi que les professionnels du domaine puissent intégrer cette dimension-là. Maintenant, pour revenir aussi...
les défis rencontrés dans les rédactions.
À la question des défis rencontrés, c'est commun à toutes les rédactions. Parce que généralement, comme il l'avait dit, hein, s'il s'agit des cas d'attaque ou autre, on attend la version officielle. Et parfois, en situation de crise, généralement, l'administration prend le temps nécessaire de pouvoir se concerter, peut-être en comité de crise. Et parfois, il y a des consignes qui sont claires, même au niveau des ministères, on ne donne pas l'information. Et du coup, dans cet espace où, en gros, il y a, on va dire, l'absence de la parole des voix autorisées, et que d'un côté, par exemple, on a un correspondant sur le terrain qui, de façon factuelle, est témoin, on peut disposer d'un certain nombre d'éléments, mais on est contraint parfois d'attendre les sources officielles. Et parfois, ce temps de latence-là, c'est de l'espace qu'on laisse aussi pour les adeptes de la désinformation.
Ils gagnent en temps. Voilà. Alors, Jean Bosco, vous êtes également journaliste.
Ouais.
Quels sont les défis rencontrés au niveau des rédactions?
Aujourd'hui, il y a beaucoup de défis parce que beaucoup de médias vivent dans une sorte de précarité. Et beaucoup de journalistes sont facilement manipulables. Aujourd'hui, on a pratiquement certains médias qui sont comme des mercenaires à la main de certains acteurs politiques ou pour détruire l'autre. Par exemple, ils passent par votre média pour donner une information que vous n'avez pas la capacité de vérifier. Mais comme celui qui vous permet parfois de vivre avec des petits jetons, dès lors qu'il vous donne l'information, vous balancez l'information sans parfois confronter cette version-là à l'autre version qu'on accuse. Donc, cela fait que aujourd'hui, la vérification des médias avant de les diffuser pose énormément de problèmes. Et surtout, aujourd'hui, on a une multiplication des médias en ligne qui joue sur une sorte de sensationnel. Et je crois que beaucoup de médias ignorent même la mise à jour, par exemple, chez nous au Tchad, ici, de la loi pénale. Par exemple, sur... l'article 440 à 442 du code pénal tchadien poursuit ceux qui... Il y a ce qu'on appelle l'association des malfaiteurs informatiques, qui est une infraction. Il y a les formes de diffamation qui sont condamnables, de 5 jusqu'à 10 ans, de 1 million à 10 millions, etc. Donc, parfois, les gens ne mesurent pas l'ampleur et beaucoup se retrouvent parfois en prison à cause du manque d'information, de l'absence de vérification des sources d'information, de confrontation des différentes sources avant de diffuser, etc. Donc, voilà.
Ousmane a parlé tout à l'heure que le fact-checking, tout le monde peut le faire à partir d'un téléphone. Et vous aviez dit que ce n'est pas le téléphone le problème, il faut savoir l'utiliser. Alors, quelle forme et plateforme serait les mieux adaptées pour diffuser les faits vérifiés, ceux par lesquels vous aimeriez recevoir les produits du fact-checking? Je rappelle que vous êtes de la société civile.
Oui, alors je pense que... À partir du moment où la fausse information commence à circuler, pour la contrer, il faut suivre le même canal. C'est-à-dire que si c'est parti par WhatsApp, il faut arriver à toucher ces gens-là dans les petits réseaux, dans les groupes WhatsApp. Si c'est passé par Facebook et que c'est là-bas que ça a pris vraiment une grosse viralité, il faut contrôler sur ce champ-là. C'est exactement comme si vous aviez acheté, je ne sais pas moi, des intrants pour un champ de coton et que vous allez l'utiliser dans un champ de riz. Ça n'aura pas le même effet, je crois. Donc, c'est vraiment de voir un peu quel canal a été utilisé préalablement et de se baser là-dessus. Ou alors de voir où est-ce que ça prend le plus de l'ampleur. Et dans ces deux cas, il y a également toute la question du timing. C'est-à-dire qu'à quel moment est-ce que j'arrive? Et ce timing-là, il faut l'apprécier. C'est-à-dire, est-ce que je mets des équipes sur pied? Est-ce que ces équipes ont suffisamment le temps d'apporter des bons éléments pour contrer l'information, la fausse information? Parce que généralement, dans la précipitation, on peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en pensant qu'on est en train de contrer la fausse information, on rajoute encore une couche, ou alors parce qu'on n'a pas suffisamment vérifié, donc on va avoir des éléments de langage qui ne vont pas être à notre avantage. Donc, aller sur la base des canaux, et actuellement, si on a un public, par exemple, qui est très jeune, par exemple, dans le contexte africain, dans le contexte sahélien, un public qui est très jeune, et ces jeunes-là, majoritairement, vous n'allez pas les retrouver sur LinkedIn, par exemple. Donc, vous allez plutôt orienter votre terrain de bataille vers Facebook, vers TikTok, parce que là-bas, vous allez rencontrer la grande partie des gens qui sont le plus manipulés et qui sont susceptibles de repartager les fausses informations. Et une fois que vous avez déterminé ce public-là et les différents canaux via lesquels la fausse information circule, il faut, après ça, c'est une question de temps. Combien de temps est-ce que vous prenez? Est-ce que vous avez une équipe suffisante pour pouvoir mener à bien une riposte qui soit concrète, qui soit vérifiable aussi et qui puisse être convaincante? Après, il y a également tout ce volet de l'information qui sort du contexte des canaux, des réseaux sociaux et qui se retrouve dans la place publique à travers des rencontres, des réunions de famille, à travers des discussions autour des verres, autour de voilà, dans des cabarets et tout ça, qu'il faudrait également peut-être trouver des stratégies et des moyens pour pouvoir atteindre cette cible-là précisément.
D'accord. Ousmane, vous êtes fact-checker, comme je le disais, de profession, et cette question, elle divise beaucoup. Doit-on essayer de courir en même temps que les fake news pour les démystifier?
Alors, courir en même temps, ce serait l'idéal, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et encore une fois, une étude l'a prouvé qu'une fausse information, une étude du MIT, je me rappelle, une fausse information circule 6 fois plus vite qu'une information vraie. Et ça touche, ça part 10 fois plus loin sur les réseaux. Mais évidemment, il y a tout cet aspect-là de la désinformation qui se passe hors ligne. Et ça, dans nos contextes, encore une fois, c'est les chiffres qui le disent. Hein. Malgré tout ce que l'on voit, finalement, il n'y a pas beaucoup de monde sur Internet, en tout cas sur le Niger, quand on regarde un peu les chiffres publiés par l'institution qui s'occupe de ça. Donc, il y a beaucoup de désinfos, il le disait tout à l'heure. Par exemple, une des infos qui vient de façon offline, c'est tout ce qu'il y a, par exemple, autour de l'or, là. On te dit qu'il y a un site sur lequel on a vu de l'or, c'est un paysan qui a raclé, il a vu un truc qui brille. Et finalement, ça part de l'offline, ça rejoint les réseaux sociaux. Et tout ça, il faut l'adresser. Nous, la technique qu'on a trouvée, c'est que bon, nous, on a un peu la chance d'avoir des correspondants un peu éparpillés partout dans le pays. Donc, on les charge de nous regarder, de nous collecter ce type d'informations-là qui vont circuler offline et voir comment les adresser. Alors, La question, c'était aussi de savoir si c'était vraiment efficace. Comment on fait? Si on trouve une des infos, comment? Et je pense que la question du canal aussi est importante. Ils l'ont tous rappelé. Si on voit une info, moi, je suis très partisan des langues locales parce que beaucoup de personnes aussi qui sont touchées ne savent ni lire ni écrire. Et ça, on a tendance à l'oublier. Vous allez voir que les médias, ils voient des infos qui a circulé dans une langue X. Maintenant, on la désingue, on la débunk et puis on la restitue en français. Ce qui, à mon avis, est une grosse erreur. Il faut le faire dans cette langue-là. Après, il y a toutes les contraintes que les médias ont. On sait qu'on n'a pas forcément tous les traducteurs de dispo dans toutes les langues dans lesquelles on a vu cette désinfo. Est-ce que ces gens-là aussi, ils ont les compétences? Mais bon, il y a un schéma qui est là, qui est établi. Et souvent, c'est difficile aussi de remonter pour savoir sur quel réseau est-ce que cette désinfo a réellement commencé à circuler.
D'accord, c'est très important. Ouais,
ça peut venir de comment ça s'appelle, de Telegram. En tout cas, pour les structures organisées, le schéma habituel, c'est que ça vient d'abord de Telegram. Mm-hmm. Ensuite, ça rejoint TikTok, puis ça se déverse sur Facebook.
D'accord.
C'était un peu ça le schéma. Et donc, si vous voulez... si après vérification vous voulez toucher du monde sur Telegram, il faut déjà avoir une communauté, ce qui n'est pas évident. Alors TikTok, c'est relativement facile, même si aujourd'hui on ne comprend pas aussi comment cette application, comment ce réseau social fonctionne.
On voit bien que Ousmane est
oui,
très
je voudrais terminer juste pour te dire, pour dire que
oui, rapidement,
pour les gens
parce
qui
que
sont
nous sommes
early,
à la fin de l'émission,
pour les gens qui sont early,
oui.
nous on est à la radio, c'est très important de le dire, on les touche là-bas, mais il y a aussi des focus group.
Je pense qu'on peut revenir après dans une autre émission.